Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Et on a le choix de faire bon. Et ça, aujourd'hui, c'est un choix. Et c'est un choix que toute notre génération, celle d'avant et celle de juste après, on est tous dedans, quoi. Et on est heureux de porter ces valeurs-là.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis ou les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà, messieurs.
Oui, mais comment on boit ça?
Du sec.
Allez.
Moi c'est Mika.
Moi c'est Adrien.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles. Nous ne sommes pas chez un vigneron, mais nous sommes quand même chez un amateur de belles choses et de bonnes choses. En tout cas, à chaque fois qu'on me parle ou que Adrien m'en parle, il y a les yeux qui brillent et c'est Tex-Avery en fait. Il n'a même pas la moustache qui frétille, là c'est Tex-Avery, ça c'est... Salut Adrien.
Salut Mickaël.
Du coup, on se retrouve dans le village des chats. Alors je connaissais le royaume des chats de Miyazaki et on est à Katzenthal. C'est la première fois toi aussi que tu te mettais les pieds ici ou pas du tout?
Alors j'y suis passé en voiture pour aller sur les hauteurs là dans les ruines avec Catherine du domaine de l'Envol, mais c'est la première fois que je m'arrête effectivement, donc c'est très bien.
Alors aujourd'hui on va parler de Niol, d'eau de vie, on dit ça, comment on dit ça en alsacien?
Schnaps.
Un schnapps, on va boire un schnapps, mais on va boire des schnapps un peu différents de ce qu'on connaît. Alors, pas de framboise sauvage, pas de coin, pas de poire Williams, mais que des bonnes choses. Il est sur ma gauche, voici Mathieu. Salut Mathieu.
Salut Mickaël, salut Adrien.
Merci de nous recevoir chez toi. Est-ce que tu connais notre podcast?
Oui, et je suis fan. C'est vraiment super de faire ça et d'être surtout au contact des producteurs alsaciens, parce qu'on en a tous besoin, je pense, et de voir aussi qu'on s'entraide tous. C'est les gens chez qui vous allez, c'est vraiment des gens qui sont sur le partage, sur l'échange, et vraiment des passionnés.
Alors je te propose que pendant ce temps qu'on est ensemble, qu'on parle de ton parcours, alors on attend madame qui va arriver, qu'on parle de vos parcours respectifs, aussi de l'histoire de cette distillerie, distillerie spirale, parce que c'est vrai qu'on commence à la voir un peu sur les réseaux sociaux, c'est la force des réseaux sociaux. Ah non, je croyais que c'était madame, mais c'était le vent. Bah du coup, Mathieu, parle-moi un peu de ton parcours. Je crois que tu as une expérience déjà dans la distillerie. Mettez, il me semble, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, ouais, exactement. Alors, j'étais pas prédestiné à faire ça, loin de là. J'étais en école d'ingénieur en génie mécanique. Donc, j'étais un peu pas fan, mais assez attiré parce que l'homme pouvait créer par les machines, tout ça. Et à un moment donné, j'ai eu, je sais pas, il n'y a pas la foudre qui m'est tapée dessus, mais un éclair. J'ai voulu travailler quelque chose du terroir alsacien. Donc, ce qui était sûr, c'était pas le vin. C'est pas que j'aime pas le vin, c'est pas que j'aime. C'était trop commun. Et j'ai jamais voulu faire les choses depuis tout petit comme les autres.
Tu voulais marquer ta différence.
Voilà, c'est mon côté un peu féminin aussi, créer des choses, être peut-être plus sur une sensibilité et travailler différents produits. Et le hasard a fait que mon oncle à l'époque, donc Philippe Trabert, qui était gérant de la distillerie Mété, avait besoin d'une personne. Donc il m'avait proposé. Et moi, je me dis, bah, tiens, par hasard, je vais m'y intéresser. Et c'est quelque chose du terroir. Et à l'époque, depuis tout petit, on cueillait les fruits. J'étais à côté de l'alambic avec mon cousin. On s'amusait, tout ça. Et j'aimais bien... on aimait déjà bien manger des fruits. Donc, pourquoi pas les cueillir pour en faire un alcool. Je trouvais ça très, très intéressant sans moi être consommateur forcément d'alcool. Et ben, le fil du temps a fait que quelques mois passent et à un moment donné on se retrouve, il me demande « bon, tu veux faire quoi ? Est-ce que tu veux rester et on enclenche des choses ou partir parce que c'est pas ta passion ? Parce que si c'est pas ta passion, il faut être passionné et tu t'en vas. » Il était très exigeant et j'ai toujours respecté ça parce qu'il a toujours dit que pour avoir de l'excellence, il faut être exigeant. Mmh. Et ça, j'y crois encore toujours maintenant. Et ben, je lui ai dit, écoute, je commence à être passionné. Donc, j'aime déjà ce que la nature nous offre, de base. Et si on peut prendre ce qu'elle nous offre et la transformer et créer de nouvelles choses, ben moi, ça me va.
Parce que tu as dit que tu n'étais pas très alcool. Est-ce que tu as commencé à un petit peu à en boire, à l'associer plus facilement ?
Ben effectivement, hein. C'est vrai qu'à l'époque, ben quand on était jeune, on buvait un peu de la vodka, tout ci, tout ça. Des alcools un peu plus jeunes, un peu plus tendance et pas forcément cher, hein, entre guillemets. Et ben moi, j'ai toujours fait des réactions allergiques. Donc les alcools, sur moi, ça a toujours été un peu le côté pas top. Et en dégustant les alcools de chez Mété, ben, j'avais pas de réaction. Donc c'était déjà qu'il n'y avait pas d'éthanol, c'est qu'il n'y avait pas de ce côté chimique et que ce n'était pas surtout de la production industrielle. Donc j'ai vraiment commencé à déguster les alcools chez Mété. Et le but et l'ouverture d'esprit surtout veut qu'on commence à goûter aussi un peu autre part. Donc là, j'ai aussi pris le temps de me déplacer, de goûter un peu chez des confrères, mais comme j'ai pu le dire avant, pas forcément dire ce que moi je faisais, voilà, pour vraiment apprendre ce que tout le monde peut décrire. Sans qu'il y ait forcément des freins. Parce que nous, on est une génération qui sommes vraiment dans le partage, mais peut-être les générations d'avant, parfois, si on exprime qu'on est dans le même métier, j'ai déjà pu me ressentir qu'il y avait des blocages. Donc c'est pour ça qu'on a fait beaucoup de choses comme ça, un peu en fantôme, quoi. C'était plutôt sympa. Plus j'avançais dans le métier, plus j'étais exigeant, pareil. Et à un moment donné, voilà, on grandit, on évolue, on commence à avoir une éthique à soi, des valeurs qu'on a aussi envie de transmettre. Et au bout d'un moment, ben, j'ai rencontré Claire, qui va pas tarder, et on s'est dit ben, que hop, on a les mêmes valeurs, on a envie de transmettre les mêmes choses, on a deux savoir-faire, ben, on va voler nos propres ailes et faire ça ensemble, quoi. Donc j'ai pu distiller pendant 10 ans à la distillerie Mété, aux côtés de mon oncle, qui m'a transmis pas mal de choses. Et aussi sa passion, hein, c'était un amoureux de son métier. Et au moment de son décès, ben, j'ai décidé aussi de partir. C'était peut-être un signe, lui plus là, ben moi, voilà, j'avais envie de transmettre des nouvelles choses, donc je me suis dit, tiens...
T'avais surtout envie de créer ta propre histoire, j'ai l'impression, non ?
Ouais, c'était surtout ça, et ma propre histoire est montrer l'émotion qu'on a, en fait, dans notre couple à nous. C'est un peu ça, c'est les produits qu'on produit là, de la distillerie Spirale, c'est vraiment des produits qui nous reflètent nous et qui sont pas dans, qui sont pas le reflet en fait de la communauté de nos jours ou qui sont pas de qui y a pas de séduction, c'est vraiment des produits qui nous représentent nous purs et qui sont sur de la tension, qui sont sur de la fraîcheur, sur de l'équilibre, sur de la rondeur aussi, et sur de la finesse, parce qu'on est des gastronomes quand même. On aime les bonnes choses, et les choses locales, et les choses françaises. Sans chauvinisme ni rien, mais on est un pays où on dit toujours qu'on a plein de belles choses, de belles régions. Et je pense que le Covid actuellement fait aussi bien les choses. On reste un peu dans cette France, et on goûte aussi chez des producteurs, on prend le temps, et c'est bénéfique pour plein de gens, quoi. Pour surtout les passionnés de nos jours.
Pourvu que ça dure.
Pourvu que ça dure.
Du coup, on est du coup, une fois que tu étais parti, tu as commencé à penser avec Claire ton projet. Comment est née alors l'idée justement de Spirale ?
Ouais, c'était vraiment ça le but. En fait, comme j'ai pu le dire avant, hein, c'est des produits qui nous représentent nous. Donc nous, c'est quoi? C'est deux savoir-faire. C'est moi qui a un peu acquéri un savoir-faire un peu traditionnel, hein, la distillation de fruits classique et pas classique, hein. J'ai pu distiller, j'avais pas tout distillé chez Mété à l'époque, mais on avait quand même une variété de 88 eaux de vie. Dans les 88 eaux de vie, il y en a eu beaucoup qui sont quand même passés. Et donc cette expérience a fait que niveau aromatique et niveau équilibre sur les macérations, les fermentations, j'arrive à être assez à l'aise sur cette façon de produire. Ensuite, Claire, qui va l'exprimer un peu, enfin qui va l'expliquer un peu mieux que moi, qui est analyste sensoriel, qui a créé des parfums sur Genève, des parfums naturels dans le sud de la France, qui est né.
C'est un nez.
Un nez, ouais.
Un vrai nez.
Donc là, je suis un peu.
Enfin, rencontrer un vrai nez, c'est toujours été une de mes curiosités, c'est bien.
Ouais, c'est complètement dingue. C'est d'une sensibilité, hein. C'est souvent des super sensibles. Donc, ça, c'est passionnant d'avoir des échanges avec eux. Et voilà, c'était vraiment ben, moi qui apporte cette touche classique et claire, qui amène cette touche plus contemporaine, une modernité. Et le but de Spiral, c'est d'assembler des choses. Donc il n'y a pas de monoarôme, c'est souvent des fruits avec des herbes ou des herbes avec des fruits. Et sinon, c'est un mix de plein d'herbes. Donc pour l'origine, c'est plein d'herbes avec la belle genièvre. On va faire une liqueur de plantes sauvages, il y aura une vingtaine de plantes dedans. Et on va encore développer des alcools de fruits avec des épices ou des herbes. Donc là, on est vraiment libre, hein, de tout faire, hein. C'est nos goûts, on ne veut pas plaire à tout le monde forcément. C'est déjà des produits qui vont nous plaire à nous et libre à l'imagination. Et je pense qu'on est dans l'air du temps un peu, de démocratiser ces choses-là. Et dans ce sens-là, peut-être rééduquer les gens sur ce que c'est un alcool blanc. Parce que voilà, il y a une petite touche de modernité, donc ça va peut-être aussi appâter un peu plus les gens vers les alcools blancs qui ont eu vraiment du mal à se vendre pendant quelques années, parce qu'on avait toujours ces a priori, des choses qui brûlent, qui arrachent la gorge, qui donnent mal à la tête le lendemain. Mais voilà, ça c'est des productions qui étaient faites entre guillemets à garage et qu'on voulait avoir du rendement, parce que c'est sûr que si on veut faire de bons alcools concentrés et pas du tout agressifs, ben on pense pas à la quantité. C'est la qualité avant tout, et on fait une grosse sélection pour enlever ce qui est de moins bon, quoi.
Du coup, c'est quoi une gnôle naturelle?
Alors, une gnôle naturelle. Une gnôle naturelle, déjà, la base, c'est qu'on produit tout sur place. Donc ça, c'est très important. Donc on participe à une économie locale aussi. Donc on produit en premier temps notre alcool de macération. Donc on achète du vin nature chez des vignerons essentiellement en biodynamie. Là, on est vraiment sûr que pas de pesticides, vraiment, que tout est soigné avec les plantes, qui respecte vraiment le cycle de la nature et que c'est pas la nature qui s'adapte à l'homme. Donc on produit ça. On n'est pas forcément labellisé, parce qu'il y a des choses un peu obsolètes dans tout ça, qu'on n'est pas forcément d'accord nous. Et ensuite, c'est respecter avant tout les matières premières, donc au minimum de l'agriculture biologique, et faire un maximum de cueillette sauvage. Donc la cueillette sauvage.
Cueillette à la main.
Donc cueillette à la main, et cueillette à la main veut dire pas beaucoup de rendement et pas beaucoup de quantité de fruits à faire. Donc c'est que des petites productions, mais des petites productions où on essaye d'en tenir d'en extraire le meilleur, quoi.
Alors c'était un de mes rêves, mon rêve va se réaliser puisque je vais rencontrer enfin un nez. Alors non, je ne parlais pas de Cyrano de Bergerac, qui a un nez qui est quand même magnifique. T'as déjà rencontré un nez?
Non, enfin oui, du coup toi, mais il y a 3 semaines, quelque chose comme ça, un peu avant Noël quand même, mine de rien, ouais, ça. Mais non.
Alors j'ai fait métisser une nez, ça se dit une nez?
Disons que mon vrai titre, entre guillemets, c'est analyste sensoriel. Nez, effectivement, je suis vraiment passionnée d'olfaction, j'ai travaillé en parfumerie à Genève et puis dans le sud de la France. Mais voilà, le vrai titre, c'est ça, nez, c'est si je travaille encore aujourd'hui, maintenant, dans la parfumerie fine. Qui est assez sélective, j'ai choisi de la quitter pour aller vers quelque chose de beaucoup plus naturel qui réunit la terre et l'olfaction et le goût de précision, quoi. Donc ça me plaît, je suis encore mieux là, quoi.
C'est vrai que le nez, ça fait un peu National 7 à Grasse, ce côté-là. On voyait souvent les reportages là-dessus. Du coup, on était en train de parler du parcours un petit peu de Mathieu. Je vais te poser la même question. Quel est ton parcours à toi ?
Oula. Alors, j'ai fait un master en analyse sensorielle à l'école d'agronomie de Dijon. Et avant ça, j'ai fait une école de commerce avec la totalité de mes expériences professionnelles dans le vin. Donc j'ai voyagé, j'ai fait un double diplôme aux Pays-Bas, j'ai voyagé en Afrique du Sud, en Espagne, dans différents pays anglophones et puis en France, bien heureusement, pour le vin. Mmh. Et puis voilà, quand je suis arrivée en Alsace, j'ai fait différentes expériences, mais la plus longue, c'était au domaine Muret, Clos Saint-Landelin à Rouffach, où j'ai passé 4 ans. Donc j'étais principalement à l'export et puis j'étais assez polyvalente, donc j'ai fait un petit peu de cave, un petit peu de vigne, de la compta, j'ai fait vraiment de tout, mais je goûtais aussi pas mal. Et puis suite à ça, je sais même pas par où commencer tellement j'ai fait de choses.
C'est beau la vie quand on fait plein de choses.
Ouais. Avant ça, donc j'étais en Suisse, donc j'ai travaillé sur les émotions du vin. C'était mon sujet de thèse, de master à l'école de Changin. Et c'est suite à ça que j'ai rencontré un parfumeur avec qui j'ai collaboré pendant plusieurs mois. Et c'est là où je me suis rendu compte que si je m'engageais vraiment dans la parfumerie, on va dire qu'on trouve dans la parfumerie des grands noms, je devais voyager non-stop dans les capitales et je travaillais surtout avec des matières artificielles à 90%. Donc c'est intéressant parce que c'est très précis et on reproduit le naturel. Alors l'accès aux matières naturelles comme du beurre d'iris, comme certains bois très assez extraordinaires et même certaines roses qu'on pense basiques mais loin de là, c'était fabuleux, mais on va dire que je m'éloignais quand même de vraiment du contact direct avec la nature. Et quand il m'a dit, le parfumeur que je travaillais, quand il m'a dit, Claire, tu ne pourras pas mettre le cheval dans la valise quand tu iras à Singapour, quand tu iras à Rio, quand tu iras... Et j'ai commencé un peu à me décomposer, parce qu'il y a plusieurs choses que je n'étais pas prête à lâcher, et puis j'ai arrêté ce parcours-là.
Tu arrives, toi, du coup, à pouvoir faire la différence entre une rose qui est naturelle et une rose qui est créée artificiellement, ou c'est tellement bien fait que tu n'arrives pas à faire la différence ?
Non, je pense effectivement que j'arriverai à faire la différence, mais c'est très bien fait, ça reste très bien fait. Mais on arrive à faire des roses, d'ailleurs un des premiers exercices et un des plus difficiles du parfumeur, c'est de reproduire une rose naturelle. Mais il y a des roses qui sont plus citronnées, il y a des roses qui sont plus poudrées, il y a des roses qui sont plus vertes, enfin vraiment, il faut vraiment aller dans la précision. Non, et puis après, c'est vrai qu'il faut recalibrer son nez dans le sens où, moi j'ai commencé donc avec le vin, effectivement, j'ai commencé avec le vin, avec ce qui se mange, donc quand même relativement, il y a une certaine puissance, mais c'est quand même assez accessible. Et après, le parfum, c'est très entêtant, donc faut recalibrer son nez. Les huiles essentielles, c'est encore un autre domaine. Et là, maintenant, les alcools, c'est encore autre chose. Et c'est vrai qu'à chaque fois, d'ailleurs, on le voyait bien, quand ils venaient s'entraîner, les meilleurs sommeliers de France et du monde chez Mété. Quand Mathieu et Philippe, etc., les accueillaient, ils calibraient leur nez. C'était des gens extrêmement doués, mais pour les alcools, ils se remettaient à zéro, ils réapprenaient en fait. Donc c'est ça qui est assez fabuleux. Et c'est vrai que là, dans les alcools, je trouve que c'est ce qu'on fait. Moi, j'en suis très heureuse, je trouve ça très fin. Il y a vraiment une jolie matière, un joli squelette, qui est ça, je trouve, qu'on le retrouve assez rarement ailleurs. Et il n'y a rien qui brûle, c'est très long, c'est droit, ça ne s'éteint pas. Et ouais, ça reste tout en finesse, mais avec cette puissance. Donc je suis assez heureuse, quoi.
Ça se voit, ça se voit. Hein, ça se voit.
Oui, complètement.
C'est bien d'avoir des gens heureux, finalement.
On voit vraiment cette complémentarité entre le savoir-faire de distillateur et le côté peut-être un peu plus ingénieur. Et puis, c'est vraiment sympa cette complémentarité que vous pouvez avoir entre vous. Et ça se ressent beaucoup, même sur les premières bouteilles, parce que vous avez fait les premières mises en décembre. C'est assez impressionnant, quoi. Bah, l'émotion, la thèse de l'émotion dans le vin, je trouve ça passionnant aussi. Tu as dû déconstruire qu'est-ce qui faisait une émotion dans le vin, comment ça s'articulait autour de quoi?
Alors, une émotion, effectivement, alors du coup, c'est un terme assez large qui est assez subjectif. Et du coup, plus précisément, on parlera de ressenti émotionnel. Mmh. Et les ressentis émotionnels, du coup, j'ai construit des échelles de deux mesures avec des mots qui faisaient écho aux gens. Et il y a eu plusieurs panels de dégustateurs qui sont venus déguster des vins qu'on avait ciblés. Et vraiment en focalisant une émotion, est-ce que l'étiquette impacte l'émotion, est-ce que la compagnie autour du vin impacte l'émotion, est-ce que le nom de la bouteille, est-ce qu'une dégustation complètement à l'aveugle est subjective, enfin voilà, selon le niveau des gens, etc. Donc il y a eu pas mal de choses, mais on va dire que la moitié du sujet portait sur le vin et la moitié vraiment dans les neurosciences, quoi. Mmh. Okay. Voilà. Donc c'était très intéressant. Ouais.
Du coup, tu as utilisé cette matière pour créer l'étiquette peut-être, enfin, ou le style autour de Spirale. Il y a eu quelque chose un peu.
Si j'ai créé ma thèse, si ma thèse a apporté quelque chose aux étiquettes, je dirais que moi je suis assez, on va dire tout ce que j'ai fait dans ma vie participe à ce que je suis, mais je suis ce que je suis avant d'être mes projets. Mmh. C'est-à-dire que je dirais la réponse que c'est plutôt non. C'est une étiquette qui nous reflète et qui est simple et qui est belle, qui est légère, mais on cherche pas forcément à plaire, contrairement à ce qu'il faudrait peut-être, mais c'est pas... non, moi ça m'intéresse de comprendre comment ça fonctionne, mais j'avoue que je fais maintenant ce qui me plaît, quoi. Okay. Voilà.
On parlait de l'air du temps, moi je trouve que l'étiquette est très dans l'air du temps, un peu le minimalisme, un peu je suis un minimaliste, donc forcément ça me touche un peu plus et ça touche de plus en plus les gens, ce côté minimaliste et justement quelque chose de simple attire aussi l'œil et c'est peut-être, ça donne même plus envie.
Bah tout à fait, quand on monte à cheval, quand on utilise des éperons, la cravache, bah ça va réagir fort. Quand on veut parler à un cheval, on fait juste un minuscule mouvement et c'est là où ça réagit. Et quand on chuchote, on écoute quelqu'un. Quand on crie, on n'écoute pas, on crie par-dessus. Mm-hmm. Donc oui, moi, on est assez dans cette philosophie-là, oui, complètement.
C'est plutôt pas mal. Du coup, comment est-ce qu'on fait un alcool blanc? Parce que, bon, c'est quoi le processus? Je suis certain que très peu savent comment c'est. Parce que moi, je me rappelais dans mon petit village, la nuit, on entendait des bruits, on entendait des alambics qui sortaient des cours, et mon grand-père, la nuit, parce qu'il fallait surtout pas que les flics le voient, etc. Donc, bon, si on sort de cette image-là, comment est-ce qu'on fabrique un alcool blanc?
Ben, légalement déjà.
Oui, bien sûr, légalement.
Non, je rigole, mais en fait, pour produire un alcool, il y a deux façons de produire. Il y a ce qu'on appelle les eaux de vie. Donc, ce sont des alcools qui sont issus de fermentation. Donc là, c'est une législation française qui définit juste deux process de deux façons de faire. Donc, les eaux de vie, ce sont des eaux de vie par fermentation. Et les spiritueux, ce sont des eaux de vie... Enfin, des alcools, pardon, obtenus par macération ou infusion. On peut avoir les deux termes. Donc, les eaux de vie. Donc, on va faire fermenter le fruit donc naturellement, ce qui est très important. Hein. Donc, c'est là où un savoir-faire est quand même assez important, dans le sens où il faut savoir à quel moment on va mettre le fruit en fermentation pour qu'il développe les aromatiques qu'on a envie. Parce que s'il est pas...
Je te coupe juste, est-ce qu'il faut un fruit de qualité ou est-ce que, comme on entend souvent, il a un fruit pourri, ça fonctionne?
Alors ça, c'est aussi très important, merci de le préciser. C'est vraiment, il faut un fruit qui est, je vais peut-être exagérer, mais qui est top. Du fruit qu'on puisse même pas trouver sur les étals, au marché, ou en réagisse comme d'autres peuvent acheter là-bas. Donc c'est aussi voir les producteurs avec qui on travaille, parce que travailler avec des passionnés, ça reste toujours important. Mais il faut vraiment que le fruit soit très sain et en bonne maturité, parce que s'il n'est pas en bonne maturité, il ne va pas commencer sa fermentation, donc il y a un risque d'oxydation. Donc souvent, il y en a quelques-uns qui peuvent utiliser soit des levures ou soit du sucre. Donc ça, c'est interdit, mais bon... ça se pratique quand même. Alors oui, après, la législation française est un peu bizarre. On n'a pas le droit de mettre du sucre dans une fermentation pour la lancer, pour avoir plus de rendement. Mais par contre, on peut édulcorer le produit final. Donc ouais, il faut m'expliquer des choses quand même. Bon, bref, on va pas trop parler sur tout ça. C'est des grands sujets que j'aime pas trop. Ouais.
C'est le débat national sur l'administration actuelle. Hein.
Ouais, c'est un peu ça. Donc là, il faut vraiment que le fruit soit mûr, donc qu'il soit goûtu, qu'il soit. Après, ça dépend de la variété du fruit, mais qu'il soit vraiment sain au maximum et mûr à point. Donc ça, ensuite, on va lancer une fermentation.
Pour savoir, excuse-moi, je te coupe un petit peu. Pour savoir si le fruit est mûr, vous concertez tous les deux. C'est comment ça fonctionne? Est-ce que vous
on goûte, hein. On goûte.
Bon là, pour les alcools spirales, pour l'instant, on a uniquement eu l'abricot romarin. Et là, effectivement, les abricots, ils sont arrivés juste 2-3 jours avant la maturité parfaite. Et puis, tu as quand même l'habitude. Hein. Là, j'avoue que oui, moi, j'étais là, mais il sait très bien faire.
Ah. Ouais, c'est là où j'ai pu un peu évoquer avant, c'est que ça, même cette étape-là, ça rentre dans un savoir-faire. Donc c'est pour ça que de nos jours, les nouveaux un peu qui se lancent, c'est super, mais ils ont peur de les fermentations. Parce que les fermentations, c'est difficile à gérer. Donc c'est naturel, on peut rien maîtriser, entre guillemets, c'est le fruit qui décide de tout. Donc là, c'est en bonne maturité, et s'il est trop mûr, donc il va pas forcément pourrir, il va flétrir, il va être un peu tout mou, mais il va aussi perdre en aromatique. Donc souvent, les gens ajoutent des acidifiants pour garder la structure aromatique de la matière première. Et ça, c'est pas bon non plus. Ça va se ressentir automatiquement sur le produit final. On différencie souvent des alcools comme ça, s'il y a du sucre, des levures ou des acidifiants sur des alcools en fermentation, donc des eaux de vie, c'est sur la longueur. On peut avoir des choses très expressives au début, très douce, pratiquement une sucrosité, se poser même des questions si c'est naturel. Et si ça s'évente au bout de 15-20 minutes, voire une demi-heure, c'est qu'il y a eu souvent des ajouts comme ça. Mais par contre, si ça met peut-être un peu de temps, parce que le temps, on n'aime pas forcément, mais vaut mieux prendre le temps, peut-être 5-10 minutes, de laisser s'ouvrir. Et si là, ça commence vraiment à gagner en explosion aromatique, et que ça dure dans le temps, c'est là qu'on voit qu'un alcool est naturel.
Ce que je vous propose, c'est que tu nous expliques un peu l'alambic pour les nuls, parce que comment ça fonctionne, comment les processus en fait. Alors il y a toujours du cuivre?
Ouais, pas forcément toujours du cuivre maintenant sur les nouveaux alambics, ou sur des alambics hors Alsace ou hors France en tout cas. Mais je porte vraiment une importance à ce qu'il soit tout cuivre, parce que le cuivre, c'est quelque chose qui est très poreux. Donc il va toujours retenir, s'il est propre, les impuretés de la matière première et des vapeurs. Okay. Donc ce qui est important, c'est toujours de laver le cuivre. À chaque fois qu'on vide un alambic, qu'un cycle est terminé, on lave, et nous on lave avec de l'ortie. Alors pas pour son effet urticant, mais vraiment pour dégraisser. Il a un gros pouvoir dégraissant, ce qui est pratique pour enlever la graisse qui est du fruit, parce qu'il y a souvent des pépins, de la peau ou des noyaux, et c'est ça qui va vraiment apporter du gras aux alcools, ce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir sur le produit final. Et si on ne le lave pas, le gras devient vite rance. Donc c'est pour ça que quand un alambic est terminé, quand tout est encore chaud, on prend de l'eau chaude, on prend de l'ortie. Et si vraiment c'est trop gras, qu'on n'arrive pas avec l'ortie, parce que parfois voilà, il faut s'incliner, hein. Il faut pas être bête et laver qu'avec de l'ortie, y avoir une petite chance qu'il y ait encore du gras, on utilise du savon neutre bio. Si vraiment on n'a vraiment pas de choix, ou avec du gros sel aussi. Donc ça, c'est vraiment, on s'adapte, mais en général, on prend ça avec de l'ortie. Après, c'est un alambic alsacien, et c'est sur un alambic de petite taille, de 120 litres, où on distille tous nos alcools. Donc parfois, ça peut prendre énormément de temps, mais on privilégie la petite quantité. Voilà, pour concentrer plus les molécules dedans, parce qu'on va toujours avoir pratiquement un alambic plein. Plus il est plein, moins il y a de contact avec l'air aussi dedans, et plus on concentre les arômes grâce au bain-marie. Donc on chauffe, nous, au gaz. C'est un choix surtout sur la qualité. Au gaz, nous, ça nous permet vraiment de gérer les chauffes et d'extraire ce qu'on a envie d'extraire sur le moment où ça coule. Donc on fait toujours un travail en amont sur les matières premières en fruits souvent. Donc on fait souvent des jus frais, des compotés et des confitures. Et quand on fait ces choses-là, on se rend compte que les molécules aromatiques changent ou évoluent. Et c'est ce qu'on essaie de reproduire dans la distillation du fruit, en tout cas sur la première passe, c'est d'extraire toutes les aromatiques qu'on a envie de nous d'extraire et ce qu'on n'a pas envie de rester dans le chaudron. C'est pour ça que varier les chauffes entre les chauffes vives et des chauffes basses va permettre d'extraire vraiment ce qu'on a envie nous, pour créer déjà une émotion et surtout, comme elle a pu dire Claire, de la matière et pas uniquement de l'aromatique. Ça ne nous intéresse pas. C'est pas très passionnant pour nous au final.
Non, votre histoire, c'est vraiment la pureté du fruit ou de l'herbe. Mm-hmm. La qualité, surtout que c'est des cueilleurs. Donc déjà, en fait, c'est un peu comme les vendanges manuelles. Hein, on est un peu sur le même processus, respect du vivant, parce qu'un fruit, une herbe, ça reste un vivant.
Ouais, c'est ça. Et on cueille et ensuite on travaille aussi avec des agriculteurs qui sont aussi passionnés. La plupart, c'est souvent des jeunes qui se lancent ou des gens en reconversion en agriculture biologique ou biodynamique qui se lancent et ils ont accepté de planter. On va parler essentiellement de plantes, hein, ou d'herbes aromatiques parce que des fruits, c'est plus compliqué, c'est plus long. Donc on participe aussi à ce côté lancement comme nous on peut aussi se lancer, mais c'est tout là aussi spirale, c'est s'élever tous en même temps, respecter aussi le cycle de la nature, ça meurt, ça revit, donc ce côté éternel qui revient, et aussi une économie circulaire, au maximum une synergie commerciale, comme on peut le faire avec Christ en binaire. Et
moi, les chocs aussi, tu réutilises tout aussi, ce que tu disais.
Ouais. Donc ça, pareil, hein, c'est ça, cette économie circulaire, c'est aussi prendre des belles matières premières et derrière, quand elles sont distillées, qu'on appelle ça des déchets, on les met soit en compostage, en méthanisation. Donc c'est utiliser vraiment jusqu'au bout toutes la matière première et en extraire tout ce qu'on peut extraire, quoi. Du début à la fin. Donc ça, c'est vraiment aussi important. C'est quelque chose qui pour nous nous paraît logique, mais pour certains, moins, ou ils prennent pas le temps. Et le temps de nos jours,
ils ont le temps de le prendre, le temps, hein, parce que là, on en a du temps à prendre. Normalement. Mais si, non, c'est vrai.
Ouais, on a le temps. Gérard Depardieu disait, faut prendre le temps de prendre le temps.
Moi, je dis toujours, tout le monde a une montre, mais personne n'a le temps.
Ouais, mais le bonheur, c'est d'oublier le temps.
C'est ça. T'as une citation sur le temps?
J'étais en train de me dire, moi, je peux pas rivaliser sur les citations.
T'as une citation sur le temps?
Non, moi j'ai pas de montre et je vis hors du temps.
Oh, sur ces belles phrases. Du coup, explique-nous un peu. Alors nous, on est devant l'alambic. Présente-nous le comme ça un petit peu.
Donc malheureusement, il chauffe pas. Hein, on aurait peut-être un peu plus chaud. Mais donc du coup, c'est un alambic alsacien qui est chauffé par un brûleur à gaz, entouré d'un bain-marie. Ouais, c'est plus précis comme j'ai pu expliquer avant. Et d'un bain-marie, donc ce qui permet d'avoir une chauffe homogène dans tout notre alambic et de monter sous pression, mais par le bas, pour que la pression traverse tout le fruit puis que c'est extraire toute l'essence de la matière première qui se situe dans le chaudron. Et c'est important, hein, d'avoir un bain-marie parce qu'à chauffe directe, déjà ça met pas sous pression et ça cuit. Il y a des risques que ça cuit si on n'a pas de remueur la matière première qui est au fond de l'alambic ou du chaudron. C'est comme si on fond du chocolat dans une casserole à feu direct, il crame assez facilement, quoi. Donc ensuite, on a au-dessus un chapiteau, donc un chapiteau traditionnel, sauf que là, il y a une genre de cloche qui va permettre de mettre une seconde matière première dans cette cloche pour aromatiser les vapeurs qui montent du chaudron par la première matière. Première matière. Mmh. Ensuite, les vapeurs traversent cette cloche, s'aromatisent naturellement et descendent par un col de cygne en direction d'un refroidisseur. Donc là, le principe, c'est un condenseur, hein. C'est de l'eau froide qui est tout autour du tube où les vapeurs descendent et au contact du métal froid se condense et coule par un bec en bas du refroidisseur. Et c'est par là qu'on fait toutes nos sélections. Donc on enlève le plus agressif et le moins alcooleux et le plus rance pour ne sélectionner que du cœur de chauffe. Et tout ça, on le fait naturellement. C'est que notre bouche et notre nez qui sélectionnent. On n'a pas d'alcoomètre sur l'instant de sélection. On n'a pas de jauge de pression pour voir, ou thermomètre pour voir à combien ça chauffe ou autre. C'est que par l'oreille, c'est que par le visu et par la bouche et le nez.
C'est que les sens qui sont en éveil, quoi.
Voilà. Donc c'est là qu'on fait vraiment le travail de deux savoir-faire et qu'on obtient peut-être des alcools qui sont plus vivants, qui sont peut-être moins maîtrisés. Je pense pas que c'est même moins maîtrisé, parce que les machines, on devient trop dépendant de tout ça, et se faire juste confiance à soi, on va peut-être avoir des qualités de produits qui sont beaucoup, qui sont meilleures que si on avait des machines qui nous pèsent la densité et tout ça.
Après, tu as l'expérience des 10 ans aussi. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui a envie de s'installer maintenant, il pourrait comme ça au goût savoir si c'est bien ou pas?
Non, là, t'as raison de dire ça. C'est un savoir-faire, c'est un vécu. Après, c'est propre à chacun. Chacun a sa sensibilité, chacun a sa perception aussi des alcools qui coulent ou des aromatiques. Et là, c'est vraiment l'homme qui fait sa sélection pour le produit final. Il y a quand même un savoir-faire à prendre dedans. C'est pour ça que je conseille quand même aussi, quand on veut se lancer, c'est prendre un peu de temps à se déplacer chez certains pour voir comment ils travaillent. Et savoir ce que c'est un alcool fort, agressif, ou éthanol, du cyanure, tout ça, pour apprendre à décrypter ces molécules qu'on arrive à sentir, à percevoir au nez en tout cas.
Du coup, on peut parler de pâte d'un distillateur comme on peut parler d'un pâte d'aviron, ou ça marche pas forcément comme ça dans le monde de l'eau de vie?
La pâte du distillateur, ça va être sur la globalité, en fait, parce que la pâte, c'est juste déjà sur la fermentation. Après la deuxième façon, ce sont les spiritueux. Donc là, ce sont uniquement des alcools qui sont obtenus par macération ou infusion. Et la pâte du distillateur, ça va aussi être ça. C'est combien d'alcool on met avec la quantité de matière première et la durée aussi de macération. Et c'est là déjà que l'artisan va mettre sa pâte, juste sur l'équilibre d'alcool et de matière première pour créer une macération.
Alors, du coup, on va continuer cette discussion
autour d'un verre,
Donc place à la
dégustation.
Allez, c'est parti.
Birkine time, les bateaux. Birkine time.
On est de retour pour la dégustation. Alors, par contre, on a un invité qui est arrivé entre-temps parce que, je ne peux pas ne pas le présenter. Bonjour, monsieur Binaire.
Hello, Auguste.
En fait, c'était intéressant d'avoir monsieur Binaire avec nous parce que, en fait, tu nous avais raconté lors de l'enregistrement que c'était justement Mathieu qui avait repris ou qui retravaille avec toi les eaux de vie de ton domaine. C'est bien ça?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Comment s'est fait votre collaboration, du coup?
Elle s'est fait un peu comme toutes les meilleures collaborations. Par hasard. Papa a fait les eaux de vie au domaine pendant des années, puisqu'il a repris l'activité de son père, donc mon grand-père, dans les années. Et du coup, a développé ça tranquillement. C'était un peu son dada jusqu'à ses 83 ou 4 ans, là. Et donc là, du coup, pour des problèmes de santé, il a dû s'arrêter. Et puis, en parallèlement, ma chérie a développé son activité d'huile de pépins de raisin.
Et donc, bonjour Michel.
Bonjour Michel. Mathieu rentre dans la cour pour faire épépiner ses mares dans son projet d'eau de vie spirale. Et puis du coup, de fil en aiguille, voilà, on a sympathisé, on a réfléchi, on s'est rendu compte d'une belle complémentarité. Et donc du coup, c'est de là qu'est partie l'idée de reprendre l'activité des eaux de vie, qui sont les eaux de vie classiques du domaine avec les mares et les fruits, et qui peut venir en complément de tout le travail que fait Mathieu et Claire au niveau d'autres eaux de vie plus travaillées, plus modernes, plus dans l'air du temps. Et qui ont tout à fait leur place aussi.
Et du coup, t'as déjà goûté leurs eaux de vie?
Oui, j'ai déjà goûté et je me suis vraiment rappelé que la première fois où j'ai bu tellement d'eau de vie dans une soirée, C'était quand Mathieu m'a fait goûter les premières eaux de vie de chez lui. Et je me suis dit, là, il y a quand même un truc bizarre, quoi.
C'était toi le testeur officiel?
Je sais pas. Je sais pas si c'était moi qui étais testeur, mais en tous les cas, ça m'a même surpris. Parce que je suis vraiment un grand consommateur de vin, mais pas vraiment d'eau de vie. Et là, je me suis surpris du taux de buvabilité qu'il y avait sur ces eaux de vie. Et là, je me suis dit, là, il y a un
Il y a un
truc, quoi.
truc.
Ouais.
Et bon, ils sont pas là, hein, mais ils sont pas là. Entre nous, tu penses quoi de leur gnôle? Mais ils sont pas là, hein, ils entendent pas.
Bah écoute, je trouve ça impressionnant de précision, d'élégance, de buvabilité, alors que c'est une activité récente, donc du coup il n'y a pas d'élevage non plus pendant des années, et c'est tout de suite bon. Ça me fait presque peur, tu vois,
C'est impressionnant.
parce que c'est tout de suite bon, quoi. Et donc du coup, c'est top. Donc comme quoi, il y a moyen, quoi.
Ah mais ils sont là? Mais qu'est-ce que vous faites là?
Mais bonjour.
Mais bonjour.
Bonjour. Bonjour Michael. Bonjour Christian.
Je trouve que oui, vous savez faire de bonnes belles choses. Justement, quel regard, toi, tu connaissais Binaire avant?
Ouais, alors le hasard aussi a fait qu'il y a certains amis, on a fait souvent des soirées dégustation d'eau de vie à l'aveugle. Et en ayant fait les eaux du Mettey, ben, il y avait pratiquement chaque dégustation du Mettey, donc on arrivait à reconnaître assez facilement notre pâte, hein, parce que on les produisait de bout en bout, donc on les reconnaissait facilement. Et il y a une eau de vie qui sortait toujours du lot hors Mettey, et c'est bizarre, hein, mais c'était souvent du Binaire. Donc le hasard a fait il y a une dizaine d'années, quand on goûtait à l'aveugle, le premier eau de vie que j'ai goûté à l'aveugle et j'ai trouvé extraordinaire, c'était du Kirsch, et on m'a dit c'est du Kirsch de chez Binaire. Alors là, j'ai un peu chercher, je suis jamais allé au domaine, mais mon oncle était venu il y a quelques années. Il avait dit là, ils font quand même des choses pas mal. Et le hasard a fait qu'on se rencontre avec Christian et que ça match. Et moi, apporter un savoir-faire à des personnes qui ont une même éthique, des mêmes valeurs et qui vont surtout qui font vraiment tout de bout en bout. Ils ne font pas que parler, ils font aussi faire. Et ça, c'est aussi important pour moi. Et je pense qu'il y a beaucoup à partager, il y a beaucoup à faire encore plus, si on a tous aussi de l'énergie à donner dedans. Et c'est vraiment chouette.
T'en penses quoi du taux de buvabilité? J'ai l'impression d'être Michel Drucker, moi.
Comment ça, en général?
Ouais, non, sur ces gnôles.
Je trouve ça superbe parce que c'est très fin et on parlait du taux d'alcool avant et Mathieu nous disait que 43% c'était pas du hasard et que c'était en goûtant. Je trouve que c'est très très fin et d'ailleurs ta cuisine, on a retrouvé aussi cette finesse. C'est-à-dire que là sur le sorbet, je n'aime pas du tout l'abricot, mais là j'ai trouvé que c'était vraiment très bien maîtrisé. Donc vraiment on retrouve ça et c'est ce qu'on recherche aussi, c'est cette subtilité. Je pense que maintenant on n'a plus forcément envie d'avoir des goûts. Où on va te les lancer à la gueule en disant bah tiens, tu voulais du fruit, on va te claquer du fruit. Et voilà, je suis pour la subtilité, pour la finesse.
Alors, ils sont sur trois gnôles actuellement, et je crois qu'il y a un gin, il y a d'autres choses qui se préparent. Les recettes, c'est qui les élabore? C'est Claire ou c'est Mathieu ou c'est les deux ensemble?
Je pense que la création, elle est plutôt à mon origine, on va dire. C'est plutôt moi qui ai les idées. Puis après, Mathieu, ben, il a évidemment un savoir-faire qui est très ancré, puis une vraie passion. Mais je pense que moi, je suis assez génératrice d'idées, et l'équilibre final, je pense que je participe aussi pas mal.
Mais vous arrivez à vous disputer parfois ou de vous mettre d'accord ou pas toujours d'accord?
On est tous les jours d'accord et on se dispute tous les jours.
Ah bah oui, il paraît que c'est ça qui forge le couple. Alors, place à la dégustation, qu'est-ce qu'on goûte d'abord? On commence par quoi?
Alors là, on va commencer par une mise en bouche. On va déguster l'eau de vie de vin. Donc qu'on achète. Déjà, on achète du vin nature et biodynamique, enfin en culture biodynamique chez des vignerons, parce qu'on a cette volonté aussi de participer à une économie locale et de pas acheter de l'alcool étatisé industriel, qui pour nous déjà est de l'industrie. Donc ce mot, c'est pas une allergie, mais on n'aime pas forcément en tant qu'artisan. Ensuite, de l'alcool étatisé, ben, on n'a pas forcément envie de faire plaisir ça, de faire plaisir à l'État. On a envie d'être indépendant et de gérer nous notre production et notre qualité à nous, ce qu'on a envie vraiment d'avoir sur le produit final. Et c'est vraiment aussi, voilà, comme j'ai dit, participer à cette économie locale et valoriser le travail de certains vignerons, malgré que nous, on achète du vin qui n'est pas forcément consommable parce qu'il y a une petite déviance qui s'est créée durant l'élevage. Qui peuvent pas, eux, commercialiser. Donc nous, on va quand même le prendre, le transformer pour pour produire un bon alcool de macération et valoriser quand même le travail du vigneron qui a été fait en amont. Donc là, on est sur une eau de vie de vin, majoritairement Riesling, avec 40% de Gewürz. Donc on n'a pas choisi, hein, c'est la première fois qu'on a fait ça. Donc le but, sur le long terme, c'est de favoriser un cépage pour un type d'alcool. Donc, c'est vraiment ça qu'on va essayer de faire sur le long terme pour essayer encore plus d'évoluer dans la qualité des alcools spirales.
C'est-à-dire que le thym citron, par exemple, tu vas dire tout, il faudrait que ce soit plutôt du Gewürztraminer, de telle parcelle, de tel terroir.
Ouais. Donc, Claire a émis une éventualité, c'est d'acheter du vin de Pinot Blanc pour ce produit-là, okay. Pour le thym citron. Je pense qu'elle a raison, parce que le Pinot Blanc, c'est quelque chose de tendu, c'est quelque chose d'assez franc, de moins aromatique que le Gewürz. Le Gewürz, on peut l'imaginer plutôt avec peut-être une baie sauvage, ou peut-être des épices. Tu vois, un fruit, épices, quetsch, cannelle, tu mets un vin de Gewürzt derrière, d'où le nom du cépage. Voilà, c'est quelque chose de plus chaleureux, plus chaud, plus gourmand, mm-hmm. plus des notes de cœur. Là, il faut quelque chose de plus léger, de plus volatile. Mm-hmm. Donc, ça peut être très intéressant. Donc là, on est sur une eau de vie à 71 degrés, qui n'a pas subi de réduction. Donc, ça attaque, hein, je vois à ta tête quand même. Mais bon, c'est cool, c'est funky, dans le sens où... Ou ça, comme tu disais, ça va pas te donner mal à la tête. T'as ta puissance alcoolique.
Et le Covid non plus d'ailleurs.
Ouais, c'est anti-Covid. Là, t'as pas besoin d'autotest, tu le bois, c'est parfait. Et ce qui est sympa, c'est que il y a une petite aromatique, mais ce qu'il faut se focaliser, on fait vraiment une focalisation nous sur la matière. En bouche, c'est quelque chose de très intéressant là. Et si on veut faire un focus sur la matière, tu te bouches le nez, tu bois. Bah, tu prends une petite gorgée, tu fais gravier, tu fais un petit mélange dans ta bouche et t'avales. Et c'est là que tu vas voir la matière de ton alcool sans se focaliser sur l'aromatique.
Non, moi je trouve qu'on a un truc qui est très, très triangulaire en fait. C'est, en fond de bouche, c'est assez large et après ça se focalise en un point sur le bout de la langue. Je trouve ça assez intéressant.
Voilà. Ça, c'est, du coup, ça apporte
digestibilité.
On va être beau. Hein.
Bah, c'est sûr que c'est une distillation brute de marc, qui est ni élevée ni réduite, mais c'est une excellente base. C'est un peu, évidemment, c'est marqué par la puissance de l'alcool, parce que c'est pas réduit, c'est pas élevé, mais la base, elle est pure, elle est noble, elle est digeste, malgré la force que ça a. Et je pense que c'est une très bonne matière première pour après. De faire tout le travail que lui, que Mathieu fait sur les infusions de fruits, sur les macérations, les distillations avec les plantes. Et c'est important et je trouve ça chouette parce que j'ai un peu suivi le débat qu'a après repris Mathieu sur les néo-natures et je trouve ça assez incongru que même dans le cahier de charge des néo-natures, la question se pose quand même sur savoir est-ce que... la matière première des macérations peut être de l'eau de vie dénaturée, industrielle. Et moi, je dis non, quoi. Je veux dire, c'est juste pas possible. Je veux dire, si ta base même, c'est comme si nous, les mecs, ils chaptalisaient avec du sucre de betterave de la plaine d'Erstein qui n'est pas bio. Ça joue pas. Ça a beau être local, je suis pas d'accord. Donc, il y a, à bout d'un moment, il faut rester droit dans ses bottes. Et là, il y a un vrai boulot de fait de récupérer des vins chez des collègues du coin et qui ont fait un beau travail dans les vignes et de faire une eau de vie de base.
La deuxième, on a eu la chance de la partager avec une verrine parce que nous avons eu la chance d'être reçus avec un repas fait maison par une artiste, en tout cas une passionnée également, Madame Claire, bonjour.
Bonjour, bonjour. Du coup, on en est à la dégustation du thym citron.
Qui fait partie de votre gamme aussi, hein ?
Oui, tout à fait, tout à fait. On a pour l'instant 3 eaux de vie. On est tout récent. Les eaux de vie sont en vente que depuis fin décembre. Mais du coup, le thym citron, alors c'est une vie qui est florale, qui est Pepsi, qui a malgré tout une très jolie matière, beaucoup de rondeur et d'énergie. Et le thym vient... Alors, vient principalement du sud de la France parce que le terroir et le soleil, et on doit le respecter partout où on est et le thym est plutôt de là-bas. Et par contre, on a aussi planté nous-mêmes du thym dans le sud de l'Alsace, dans le Sungo. Donc c'est aussi une jolie variété de thym, mais ça donne pas du tout la même chose. Et on a assemblé les deux. Il y en a un qui est beaucoup plus terroir, celui du Sungo, qui est beaucoup plus terreux, beaucoup plus rond, et celui du sud de la France, donc, est beaucoup plus Pepsi, qui a beaucoup plus d'énergie finalement, qui a plus l'énergie du soleil. Et puis donc le citron qui vient de notre chère île Corse. Et puis donc l'eau de vie de macération qui est effectivement du vin distillé de chez nous avec des vignerons formidables qui sont vraiment respectueux et où on porte ces valeurs-là aussi. Et voilà, c'est comme dit, il y a l'énergie du soleil, il y a la rondeur du vin d'ici et puis c'est pas alcooleux du tout. Il y a de l'énergie mais tout en douceur et c'est long, c'est droit, enfin... Voilà, faut goûter, quoi.
Alors, Christian parlait tout à l'heure de taux de buvabilité. Je sais qu'Adrien est fan parce qu'il en parle souvent et avec des yeux, je l'ai dit ce matin, hein, dès que ça vrille, boum, boum, voilà. La première fois que tu as goûté ce thym citron, ça t'a fait quoi?
J'ai trouvé ça très équilibré sur l'ensemble de leur gamme. Vraiment, l'association des deux saveurs qui sont là, qui existent, mais qui existent ensemble. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident, parce que le citron, ça a beaucoup de personnalité, le thym aussi. Et là, on trouve qu'il y a vraiment une très belle association entre les deux, ça marche très bien. C'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On va, je pense, parler un petit peu de la dégustation, dans quel cadre, toi, tu verrais goûter ça. Mais je trouve ça superbe, superbe, en tout cas, de précision aussi, de netteté.
Alors justement, tu m'as vendu quelque chose, que tu fais souvent des accords fromage gnôle ou plat gnôle. Voilà, donc sur le thym citron, un plat, un fromage. Allez, on part sur un plat, un fromage. Qu'est-ce que tu mets avec quand on parle du plat?
Si on parle d'un plat, on peut parler terroir, on va parler d'une truite Gravlax.
Et si on parle d'un fromage?
On a fait ça avec un petit master cru.
Qu'on a flambé,
qui allait très bien. Sinon, on peut marier ça peut-être avec un petit Beaufort d'été qui est plus crémeux. Dans le délire du délire, on peut peut-être un petit bleu.
Mais c'est vrai qu'on sent le côté citron. Alors c'est drôle parce qu'au fur et à mesure de la dégustation, du moment de la dégustation, ce matin j'avais plus le thym. Là, je trouve que c'est le citron qui a... Donc, c'est comme quoi le nez évolue aussi en fonction des dégustations.
C'est le but de faire des gnôles naturels, c'est que ça reste vivant. Donc, c'est qu'il y a une évolution perpétuelle. On peut laisser le verre encore demain, dans 2 jours ou dans 3 jours. Je peux garantir que ça va évoluer et ce sera encore dans le verre. Et c'est ça qui est très fun. Et c'est ça que j'invite aussi les gens. C'est sûr qu'acheter une bouteille de gnôle spirale, c'est peut-être... on va peut-être pas laisser le verre pendant 3 jours, mais on peut... De 3 centilitres, pardon, et laisser juste 1 centilitre ou un petit fond et voir comment ça évolue pendant 1 jour ou 2 jours. Et je peux vous garantir que ça va toujours évoluer. On aura toujours cette surprise de l'aromatique et le citron va évoluer, le thym va enrober encore plus ce côté confit un peu de l'écorce et va vraiment apporter une plus-value sur le produit grâce à la longueur. Quoi.
C'est ça qui est génial. Place à la troisième gnôle. Donc là, nous sommes sur... Alors, qui est une édition limitée, donc dépêchez-vous de vous la procurer chez tous les bons cavistes. Chez votre disquaire habituel. donc, on est sur la abricot romarin. Alors, le romarin est de la région?
Alors, le romarin, il est juste du jardin, et du jardin à Christian.
Bon, c'est quoi? Donc, on vous confirme, il vient de 500 mètres et 1,5 km, c'est ça?
Donc, en fait, là, c'est très particulier. C'est totalement différent du thym citron qu'on a pu goûter juste avant. Là, sur l'abricot romarin, on est sur des notes beaucoup plus pâtissières, beaucoup plus gourmandes, des notes un peu plus de cœur. Donc, on a un abricot d'une variété qui est particulière, c'est la Farlis. C'est une variété qui est très tardive. Donc on s'est déplacé chez l'agriculteur cet été, on a sélectionné le verger, ce qui était très important pour nous. En plus, on voulait quand même vivre, on voulait quand même voir dans l'environnement où les abricots poussent, et surtout voir si les agriculteurs sont passionnés. Donc, pour trouver des abricots en bio en France, c'était déjà très compliqué. Donc, c'était vraiment un casse-tête. En croyant que, sans parler, sans citer de nom ni rien, mais croire que le terroir de la vallée du Rhône est propice pour les abricots, oui, mais trouver des abricots bio de nos jours en France, voilà, ouais, c'est très compliqué. C'est là où j'ai eu un peu mal à ma France, c'est de me dire que voilà, on se focalise sur de la quantité, sur du chiffre, alors que si on a des vraies valeurs, une vraie éthique, si on veut faire de l'abricot bio, on fait de l'abricot bio. Et on s'en fiche des quantités, on s'en fiche de tout ça. Et quand on s'est rendu compte que quand on voulait aller visiter les domaines, enfin les vergers chez les producteurs, ben on n'avait plus d'appels après derrière, plus de nouvelles. Et avec plus de recherches derrière, ben comme disait Claire, c'est beaucoup de l'import bio de Turquie et d'Italie, de Calabre. Donc c'est pour ça que nous, le label bio est obsolète. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu certifier nos alcools aussi bio. Parce qu'on peut faire venir de n'importe où et ça manque d'éthique, quoi, vraiment, quoi. Donc, on a trouvé des agriculteurs qui sont passionnés au sud de la France, à Rivesaltes, à côté de Perpignan, la famille Pract, que je remercie d'ailleurs de nous avoir invités pour voir les vergers et d'avoir pris du temps pour nous. On avait commencé la cueillette avec eux. Et le temps qu'on rentre tout ça, ben, 4 jours après, on avait 4 tonnes 500 qui sont venus à Katzenthal. Donc, j'y ai jamais eu autant d'abricots, je pense, dans la vallée des chats. Donc du coup on a pu suivre nous encore la maturité du fruit, parce que c'est très important de mettre le fruit en bonne maturité en fermentation pour pas mettre de levure et de sucre, ce que peut-être d'autres peuvent faire mais pas nous, et de pas avoir un fruit trop mûr pour pas mettre des acidifiants, parce qu'on voulait vraiment un beau parfum. Et cette variété, la Farlis, a très peu de sucre et très peu de chair, mais par contre a une peau très épaisse qui va apporter énormément de floralité à l'alcool, avec un petit côté chair un peu filandreuse. Et c'est vraiment typique de cette variété là. On a choisi cette floralité de la peau pour se marier au romarin, qui pour nous est pratiquement la meilleure des variétés, en sachant qu'on aurait peut-être pu prendre du bergeron, on aurait peut-être eu le triple de production, mais qui était beaucoup plus gourmande.
Ah, par rapport à ce que tu avais dit dans le village, ah, vous faites de l'agneau, mais comment vous allez en vivre et tout. C'est vrai que la consommation de spiritueux, d'eau de vie, on a l'impression qu'elle chute, en tout cas. Donc est-ce qu'en 2021, ça a encore du sens de se lancer dans cette activité-là? Comment vous voyez la consommation? Est-ce que ça va reprendre? Est-ce qu'on va se tourner plus vers de la qualité? Comment est-ce que vous voyez ça?
Mais c'est vrai que les anciens, quoi, au moins du village et même autour et au-delà, ils nous disent, mais vous allez encore vivre de ça, c'est donc obsolète. Parce qu'avant, c'est vrai qu'ils récupéraient les fruits comme on récupérait des légumes pour faire de la soupe, pour rien gâcher, pour rien perdre. Alors qu'aujourd'hui, c'est une vraie, c'est un vrai savoir-faire, c'est un vrai choix de faire de l'eau de vie. Et je pense que les consommateurs sont vraiment en train de changer, parce que bah, grâce au vin quand même, qui a vraiment été un moteur pour eux-mêmes, toute la filière alcool, avec des valeurs de dégustation, de terroir, de respect des gens et puis des lieux, et ben on arrive maintenant à faire des eaux de vie où les gens s'intéressent vraiment à des eaux de vie blanches, donc où pas forcément où l'élevage est secondaire, c'est aussi un choix, mais où il y a vraiment une reconnaissance des fruits ou des herbes ou du travail qui est fait ou du choix des alambics dans notre cas ou de la lenteur de la distillation ou des températures basses, enfin vraiment du respect au maximum de ce qu'on peut faire. Et c'est une toute autre philosophie qui à l'époque essayait de ne pas gâcher, à l'époque de la guerre où finalement ils essayaient de ne rien perdre. Aujourd'hui on essaye aussi de ne rien perdre, mais dans un autre concept, et on a le choix de faire bon. Et ça aujourd'hui c'est un choix, et c'est un choix que toute notre génération, celle d'avant et celle de juste après, on est tous dedans, quoi, et on est heureux de porter ces valeurs là
c'est génial. Mais c'est vrai qu'il y a ça, mais surtout la qualité de la matière première. Et je crois que en fait c'est là où on rejoint un peu le travail du vigneron, c'est la qualité du raisin qui est très importante également.
Bah, moi il y a une fois un de mes commerciaux qui m'a dit distiller et concentrer de la merde, tu feras jamais de la bonne eau de vie, quoi. Et le souci, c'est que souvent l'eau de vie c'était voilà, les fruits qui n'étaient pas suffisamment bons pour faire du jus, pour faire de la conserve, pour faire du fruit de bouche, ben on le distillait. Mais le problème, c'est que quand tu prends les trucs verts, les feuilles et les pourris, ben, et en plus, quand une Mirabelle fait, fait, je sais pas, 7-8 degrés et tu la concentres à 40, bah tu as quand même 7 fois, une concentration de 7 fois, donc tu multiplies par 7 le côté désagréable que peut avoir ce fruit, pas mûr ou trop mûr ou pourri, quoi. Et donc, je pense que ça, c'est un endroit où mon père avait déjà cette rigueur, c'est de faire des eaux de vie avec des beaux fruits, avec de la belle matière première. Les mares, malheureusement, des mares qui ont été pesticidées pendant toute leur saison viticole. Alors, éventuellement, on peut imaginer que le jus pressé contient pas trop de pesticides, mais c'est clair que les résidus, ils sont sous la peau. Et là, tu reconcentres encore derrière, en plus en chauffant. Donc, je te dis pas l'espèce de soupe chimique que ça génère en chauffant à haute température et avec des évaporations de pesticides concentrés, chauffés. On arrive à des trucs quand même qui sont assez incroyables. Donc, du coup, je crois que c'est quand même une base. C'est que on parle beaucoup de vin nature et de vin bio en ce moment, mais alors dans le milieu des eaux de vie, il y a un vrai boulot. Où finalement, nous, ça nous a toujours un peu scotché d'arriver dans plein de bars à vin nature, de plein de gastro, de bistrots à travers la planète, qui sont hyper branchés vin bio et nature. Et puis alors les eaux de vie, on est resté au même stade, c'est-à-dire les grandes marques du monde entier, et il n'y a rien d'artisanal et surtout de bien fait avec une belle matière première. Et d'ailleurs, moi, ça me rend toujours triste de voir les jeunes se détruire la santé avec des mauvais alcools, alors que nous, quand on boit des eaux de vie, putain, on va bien, quoi. On se lève, on est en pleine forme, on
fait un marathon.
Hein ?
On fait un marathon.
On fait un marathon, un marathon, oui. Et surtout, alors on est peut-être un peu fatigué quand même, parce qu'il ne faut pas exagérer, mais par contre, on a notre tête et on n'est pas malade, donc c'est quand même... Mais mon père a toujours dit, c'est pas des eaux de vie qu'on fait, c'est des digestifs, donc ça aide à digérer. C'est quand même... Donc ça veut dire que ça fait du bien au corps et pas à l'inverse, quoi.
Donc on ne vous le dira jamais assez, faites attention à l'alcool, mais buvez moins, buvez mieux. Puis visiblement, comme nous, vous allez bien. Voilà. Du coup, on va passer à la troisième.
Est-ce que pour toi, le gin est moins noble que les autres eaux de vie ou pas forcément ?
Pas forcément, c'est juste une autre conception de produit. Nous, ce qu'on fait pour la gamme Spirale avec Claire, c'est ça rejoint un peu le gin. C'est pour ça qu'on a voulu quand même en faire. C'est associer des baies avec des plantes ou des fruits, des fleurs. Donc on a quand même voulu faire un gin parce que ça va un peu dans la logique de ce que nous, on veut entreprendre. Et en plus, on a aussi voulu montrer dans le sens qu'on peut avoir un alambic traditionnel alsacien tout cuivre et produire un gin. Donc il faut juste arrêter d'acheter des ustensiles ou du matériel qui ne vient pas forcément d'Alsace ou de France et dire que c'est impossible de produire un gin avec des matériaux français, quoi.
Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour tu fasses une vodka ou un whisky ?
Ouais, non, boire de la fécule de pomme de terre, c'est pas trop mon kiff, quoi.
C'est pas trop ton truc, mais les féculents, c'est bon pour la santé.
Ouais, c'est bon, mais il y a des gens qui savent très bien le faire, et je préfère le laisser, c'est comme le whisky. On va pas s'aventurer dans ça. On a un projet là d'avoir un alcool ambré, mais d'Alsace, avec des fruits d'Alsace ou d'Auvergne, parce que c'est aussi la terre à Claire, mais on va pas se diversifier.
Ah, c'est pour ça que le Cantalou est venu, parce que Auvergne, Cantal.
Ouais, il savait pas, mais le hasard fait toujours bien les choses.
Ah, il devait être heureux.
Quand on est rempli d'énergie, on attire toujours les gens qui pensent un peu comme nous. Donc.
Ah, parce que si tu dis que tu viens du Cantal, Géraud est content. Mais il a raison. Salut Géraud. On passe sur le gin, donc origine, qui est l'origine du printemps. Tiens, qu'est-ce que tu leur dis sur Spirale ?
Ah, je leur dis que ce sont des gens qui viennent de se lancer, qu'ils ont une petite production, que à part de la mandarine qui est à l'intérieur, si j'ai bien retenu, tout vient d'un rayon de 20 km autour de Katzenthal, que c'est de la distillation de raisins qui viennent en partie de chez Christian Binaire. Et déjà, rien que de dire ça, on dit pas mal de choses. Et je leur donne le petit fascicule de l'agneau naturel pour leur expliquer un petit peu qu'il y a des gens qui essaient de travailler bien, y compris dans l'univers de la distillation.
Mais c'est ça qui me surprend, c'est aussi, voilà, je vois de côte à côte, c'est un peu les gens qui aiment faire du bon vin et de bonne gnôle, finalement. C'est un peu l'histoire de cette région, parce qu'on est quand même une terre, et je crois que je me permets, par rapport à ton expérience, on est une communauté qui aime le vin, mais qui aimait aussi les alcools blancs.
Oui, je crois que ça fait partie vraiment d'une vraie tradition alsacienne.
Que dire schnapps.
Voilà, de faire du schnapps et les eaux de vie blanches, ça a toujours été vraiment notre fierté et notre particularité alsacienne d'avoir des vergers qui d'ailleurs avaient toujours du sens en termes d'écosystème, en tampon entre la forêt et le vignoble, d'avoir ces vergers de montagne comme les pommiers d'ailleurs de ma chérie et qui ont toutes ces valeurs qui, même si maintenant ils ont un peu été abandonnés, et je pense que cette activité là de transformer nos fruits et de faire des eaux de vie c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et c'est vrai que beaucoup de régions ça fait partie de leurs habitudes du moins françaises, peut-être plus dans les pays de l'Est. C'est là qu'on se retrouve un peu plus rhénan quand même que gaulois à la limite. Mais c'est pas grave, c'est notre identité rhénane et romaine qui veut ça. Et je trouve ça vraiment cool qu'aujourd'hui, comme les microbrasseries, comme toutes ces petites structures locales, ça se développe. Et je trouve ça chouette, ne serait-ce que pour la préservation des arbres fruitiers et de toute cette tradition alsacienne.
Mais moi, je suis assez épaté de la qualité aussi de ces produits-là. Alors, on a eu la chance d'avoir des brasseurs, forcément des vignerons, puisque c'est pour ça qu'on a créé aussi le podcast. Mais moi, ça me fait plaisir d'avoir une distillerie ou des chocolatiers aussi. On a eu même des gens qui faisaient du thé, du café. Je pense qu'on a cette richesse là dans la région. Je vous le dis, hein, on va vivre en autarcie. Hein. On va créer la République alsacienne.
Là, on a lancé la gamme Spirale, mais nous, on a un très grand défi. Et ça s'est vu il n'y a pas longtemps avec Claire. Elle pourra mieux en parler parce que c'est elle qui a vraiment réadapté toute une recette. C'est dans le temps. C'est réussir à faire un thym citron, un abricot romarin, un origine bien une fois, c'est facile. Entre guillemets, ça peut être un coup de chance. Mais par contre, refaire une deuxième fois, une troisième fois et durer dans le temps et avoir toujours une qualité constante en réadaptant ce que la terre nous donne. Claire, il y a deux semaines, elle a réadapté toute la recette du gin. Parce que sur la première production, on avait une baie fraîche qu'on a cueillie au petit ballon, au lieu dit hilarant, donc c'est toujours marrant, hein, le Wilson. Et là, on avait des baies un peu plus sèches. On a dû réadapter toute la recette. Donc là, après une demi-journée, à regoûter l'alcool de macération, à regoûter plante par plante et à redoser les quantités qu'il fallait pour se rapprocher au maximum de nouveau de l'alcool de base.
Donc un effet millésime ou pas sur les spiritueux?
Je pense qu'on essaye de respecter une identité puis un choix qu'on a fait au départ dès le début, mais c'est vrai que si par exemple le fruit n'est pas bon telle année parce qu'il y a eu un manque d'eau ou un ensoleillement trop intense ou... on est obligé de s'adapter à la nature. Alors soit on fait pas parce qu'on décide que c'est effectivement pas notre gamme, ou on fait et on s'adaptera. Mais c'est vrai que si à qualité constante, on va essayer de faire quelque chose de constant, bien sûr. Mais je pense que nous-mêmes, on est des êtres évolutifs. Donc je pense que fixer quelque chose dans le temps pour créer une image de marque, c'est pas forcément notre truc. Après, si c'est quelque chose qui nous plaît vraiment à la base, qu'on est heureux de ce qu'on a fait, bah oui, on va le perdurer, bien sûr. Ouais.
Moi je suis toujours passionné par les gens qui sont eux-mêmes passionnés. Alors avant de partir, j'ai quelques petites questions à vous poser comme ça parce que j'ai envie de m'amuser un petit peu. Alors avant l'amour, tu bois quoi?
De l'eau.
De l'eau?
De l'eau de la vie.
Une de tes eaux de vie.
Non, de l'eau. Et sinon, si je devais sélectionner là, un petit gin.
Un petit gin avant l'amour, ok. Claire, avant l'amour, tu bois quoi? T'as le droit de boire, de parler d'un vin, d'une bière, ce que tu veux.
Moi, je pense que j'ai pas tellement d'habitude, mais l'eau, je trouve ça tellement pur. Enfin, je veux dire, nous, on fait les choses, on est à ce qu'on fait, quoi. On fait pas par hasard, donc l'eau, oui, une eau de vie qu'on choisit. Du moment que c'est en conscience, tout me va.
Après l'amour?
Ah là, c'est secret. Après l'amour, c'est déjà beaucoup plus ouvert. Après l'amour, oui, là, on peut boire un petit schnapp sans problème.
Et de chez toi, tu mets quoi?
Et après l'amour?
Ah bah quelque chose de plus rond, de plus pâtissier. L'abricot romarin, c'est parfait.
Tu acquiesces?
Demande à Mathieu.
Oui, ouais. Tu acquiesces, Mathieu?
J'acquiesce si j'ai le temps de le boire.
T'as le temps de le boire, mais toi, tu mettrais quoi après l'amour?
Ouais, pareil, abricot, romarin qui apporte vraiment de la rondeur, un bien-être, quelque chose de un peu cocooning comme ça. Un moment de détente.
Ton dernier coup de cœur, plat, vin, où tu t'es dit, t'as goûté un truc, t'as l'effet waouh.
Waouh, moi j'ai toujours besoin un peu de réflexion.
Je vais voir Claire et je reviens. Du coup, Claire? Attends, je vais faire Christian et je reviens.
Non, non. Je me suis retrouvé vraiment emmerdé.
Bon, toi, on a goûté quelques trucs, toi aussi?
Ah mince, bah moi j'ai personne derrière. Écoute, un sorbet à l'abricot que j'ai trouvé très, très maîtrisé.
Ton dernier effet waouh quand t'as bu quelque chose, un vin d'un copain une bière?
J'étais dans le repas, c'est pour ça.
Non, parce que j'enlève le repas, il n'y a pas de resto, c'est un peu compliqué.
Bah justement, si, mais avec, je trouve que les restaurateurs, parce que ils sont quand même dans une situation très compliquée pour eux, et je trouvais que là, récemment, on s'est vraiment, vraiment, vraiment fait plaisir pour la Saint-Valentin sur des endroits ou des restaurants où ils ont vraiment maîtrisé la gestion d'un plat à emporter et à emmener à la maison, et je me dis ça c'est quand même top, parce que quand tu veux être en mode cocooning à la maison avec ta chérie, et en plus t'as pas besoin d'être dehors, tu peux être chez toi en robe de chambre dans l'état que tu veux, bah c'est cool. Et que c'est un peu l'avantage de ce corona, c'est que les restaurateurs ont appris à s'adapter pour rendre un plat facile à réchauffer et comme qui donne quand même de l'émotion, et en plus tu peux rester chez toi et dans ton environnement, dans ton intimité, et donc bah, particulièrement pour la Saint-Valentin. Moi, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Voilà.
Je suis assez d'accord avec toi. Du coup, l'effet waouh.
Ouais, moi, les deux derniers souvenirs que j'ai, c'était... déjà, c'était une fois à l'alchimie, là, avec une... C'était une tarte à la rhubarbe avec une glace au foin qui était absolument extraordinaire. Il y avait une jolie recherche. C'était magnifique. Bon, évidemment, j'ai un penchant pour la rhubarbe et pour le foin, donc voilà. Mais
c'est pas compliqué, alors.
L'accord était somptueux. Et sinon, j'ai une autre idée. C'était dans le 6e arrondissement à Paris. C'est le chef privé de Kenzo. Punaise, je me souviens plus du nom du restaurant. C'était absolument fabuleux. Où ils font tout minute devant nous. C'était uniquement un repas au vin nature. Cuisson absolument parfaite. Toujours craquant. Enfin, c'était extraordinaire. C'était un des plus jolis restaurants.
Il y a une personne que je connais dans le Sungo qui est assez passionnant. Qui s'appelle Raoul Zimmerman. C'est la brasserie Rad Wolf. C'est une personne qui...
Je confirme, c'est très bon.
Ah, tu connais? C'est un brasseur qui a 2 ans de métier, mais qui a une 50aine de bières à son actif déjà, qui fait que des petites prods et qui, pour moi, il a une bonne matière première, il a des bons houblons et aromatiquement, c'est pas du superficiel. C'est équilibré, on sent que c'est du frais, les épices, les herbes, tout est recyclé. Alors il est aussi dans des alcools, il est dans la recherche d'alcool, il a son petit alambic qui s'éclate. Et c'est un mec qui est vraiment dans le partage, toujours le sourire et qui me donne le sourire et que je suis ravi d'accueillir, et je suis vraiment ravi de faire des kilomètres pour passer juste une heure de là-bas.
Cet épisode se termine sur il faut bien mettre fin à un moment donné, hein, parce que... En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comment as-tu vécu cette aventure du raisin et des papilles?
Très agréable, très passionnante, rempli de vibrations. À des gens passionnés, des gens qui aiment la gastronomie, qui aiment les choses bonnes, qui aiment les gens et qui ont juste envie de partager.
J'ai trouvé ça super de pouvoir partager d'une façon vraiment simple, comme à la maison, et finalement très qualitative aussi, et comme on la vit nous, et partager cette envie et ces produits avec plaisir, quoi.
En tout cas, moi j'étais content d'être chez vous. Merci Adrien, parce que c'est un peu toi qui m'a présenté la distillerie Spirale. Sans toi, de toute façon, on ne serait pas grand-chose. Merci à toi.
Je t'en prie, ça fait plaisir. Toi, tu m'as fait découvrir des vignerons aussi. Donc voilà, dès qu'on a des choses qu'on aime bien, autant qu'on aille les voir à deux.
On va continuer évidemment. Évidemment, je ne peux pas. Je veux dire également merci à Christian. Merci à toi.
Ben, merci à vous deux de revenir à Merchuir. Hein. Faut croire que il y a Katzenthal, parce que faut croire que vous aimez bien vous enfuir du barin de temps en temps un petit peu quand même.
Et j'y peux rien si vous avez des petites pépites et on va continuer. En tout cas, on va continuer parce que on aime bien faire les choses qu'on fait, on met en avant des distilleurs, des vignerons, des brasseurs, des restaurateurs. On aime bien manger, on aime la table et je crois qu'on aime ce côté alsacien qui est le côté bien vivant. Et comme je dis toujours pour finir un épisode, buvons modérément, buvons libre et buvons Alsace. À Skilch!
N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.